Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, particulièrement les auditeurs fidèles du Libre Journal de la Liberté de Penser. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission qui sera diffusée le 1er juillet, mais qui est, on va tout vous dire, enregistrée une petite semaine avant, en pleine canicule. Donc nous allons partager avec Claudia, merveilleuse à la technique, un épisode caniculaire ensemble. Ma première invitée ce matin, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et Jeanne Smith. Je ne vous la présente plus sur les ondes de Radio Courtoisie. Elle est journaliste, rédactrice en chef de réinformation.tv, collaboratrice de plusieurs titres dont Le Monde et Vie et vice-présidente de la GRIF. Jeanne, bonjour et merci d'être en ligne avec nous du côté de la Bretagne où il ne fait pas moins frais, m'avez-vous dit ?
Oui, bonjour Clara. Effectivement, ici, on attend du 39 cet après-midi. On nous promettait du 40, donc... voilà, la météo ne tient pas ses promesses, mais on est claquemurés.
Voilà, je pense. Et puis, la Bretagne, d'habitude, qui nous inspire toujours un peu d'air frais, cette fois-ci, bat aussi des records de chaleur. Alors, voilà. comme je disais en introduction, Jeanne Smith, que vous êtes bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes spécialisée, en tout cas, je le pense, et si je fais une erreur, dites-le moi, dans les questions de bioéthique et de défense de la vie. Et vous allez nous éclairer sur le projet de loi sur l'aide à mourir dont l'examen a repris hier à l'Assemblée nationale. Un texte qui soulève des questions fondamentales sur ce que notre société veut faire de ses plus vulnérables. Et puis nous évoquerons aussi avec vous la prochaine visite du pape en France en septembre. Et en deuxième partie, je dis ça pour nos auditeurs du Libre Journal de la Liberté de Penser, nous recevrons également par téléphone aussi Maître Michel Hamas qui lui est à Marseille, où il fait plus frais qu'en Bretagne, Jeanne, avocat au barreau de Marseille. Il est défenseur acharné, on le voit beaucoup en ce moment dans les médias, et c'est parce que l'actualité malheureusement nous le rappelle, mais c'est un défenseur acharné des familles face aux abus de l'aide sociale à l'enfance. Et il viendra nous parler de ces enfants que l'institution est censée protéger, mais qu'elle broie parfois. Et nous nous poserons une question qui peut déranger. L'État français, finalement, protège-t-il vraiment nos enfants ? Alors, Jeanne Smith, je vous ai demandé d'intervenir sur les ondes du Libre Journal de la Liberté de Penser pour nous parler de ce texte « Droit à mourir », je ne sais même plus comment on l'a vraiment intitulé, mais qui est revenu hier à l'Assemblée nationale après un parcours assez chaotique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique de ce projet de loi et pourquoi il a mis autant de temps ?
Oui, alors c'est une proposition en fait, une proposition donc introduite par un parlementaire socialiste qui s'appelle Olivier Falorni. Le parcours a été chaotique, vous le savez, il y a eu plusieurs tentatives à répétition de faire légaliser l'euthanasie, le suicide assisté. Aujourd'hui, la loi s'appelle proposition relative de loi relative au droit à l'aide à mourir, ce qui est très 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 vilain comme formulation. Mais évite de parler de suicide assisté ou d'euthanasie, parce qu'il y a une certaine occultation de la réalité de cette étape-là. Alors, vous en souvenez certainement, la loi a commencé par être adoptée très largement par plus de 300 députés de l'Assemblée nationale. Elle est passée ensuite au Sénat.
C'était quand ça, à peu près, pour resituer, si
alors,
vous avez à peu près
le
mois
rappelle,
quelques mois,
je n'ai pas les textes,
il y a quelques mois.
Les textes, malheureusement, en tête, ça fait, pour moi, c'était en 2024 ou maximum.
Ah oui, quand même, 2024, oui, c'est juste
ou
pour
2025,
donner une idée.
Oui, excusez-moi, j'ai pas révisé cette question.
Non, mais
pas du tout la mémoire des chiffres.
Simplement pour dire à nos auditeurs que ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, on va dire.
Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux et dans un premier temps, le Sénat avait purement et simplement avait vidé le texte de sa substance, mais vraiment totalement, en refusant de voter notamment son article 2 qui institue ce droit, entre guillemets, à l'aide à mourir. Et ça aurait pu fonctionner, malheureusement. La feinte, si je puis dire, n'a pas pu fonctionner puisque ce texte-là n'a pas été adopté de manière assez précise pour que l'Assemblée en seconde lecture se prononce sur un texte totalement amendé. Au contraire, l'Assemblée nationale s'est retrouvée avec son texte initial.
Jeanne Smith, vous nous disiez que ce texte était revenu depuis le 22 juin, donc devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire depuis lundi.
Exactement, c'était le 22 juin. Et ce texte, après un parcours, comme nous le disions, chaotique, puisque les sénateurs ont essayé de s'opposer par une manœuvre en le vidant de sa substance, finalement, l'Assemblée nationale est revenue sur le premier texte, qui est un des textes les plus extrêmes que l'on connaisse dans le monde, ou qu'on ait connu dans le monde. Parce que il présente des particularités, des délais de réflexion excessivement courts. Ça a été conservé 48 heures depuis l'instant où un médecin accepte le principe de l'aide à mourir. 48 heures de réflexion et après la mort peut être administrée, si je puis dire. Donc il y a beaucoup d'aspects de ce texte sont extrêmes. Certains des plus contestables ont été levés en commission avant la seconde lecture par l'Assemblée nationale, mais en attendant, on est quand même face à quelque chose d'assez épouvantable, et je dirais que le fait de l'avoir un peu atténué peut donner l'impression que, ouf, on a sauvé les meubles. Ben non, en fait, le texte demain est extrêmement mauvais, déjà dans son principe, bien évidemment, mais aussi dans ses dispositions.
Donc malgré le fait que vous nous le disiez en début d'émission, le Sénat avait rejeté de façon assez unanime ce texte finalement. Il y a une réelle opposition entre l'Assemblée et le Sénat.
Tout à fait. Alors, de fait, le Sénat a rejeté en seconde lecture totalement le texte et avec un effet de surprise, puisque on ne s'attendait pas. Ça s'est passé à peu près au même moment qu'au Royaume-Uni, où l'Écosse elle-même, saisie d'un texte assez extrême en matière de fin de vie, avait voté contre. Donc on a eu l'impression d'une prise de conscience tout de même. Et ça, je dirais que c'est la bonne nouvelle de cette histoire. Mais aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, et à peu près au même moment, on arrive avec un passage en force, le retour du texte devant les parlementaires. Voilà, c'est on a l'impression de quelque chose qui marche de concert.
Alors, on va peut-être, dans les grandes lignes, en tout cas, revenir sur ce que ce texte prévoit concrètement, qui pourrait en bénéficier, soulignant que le mot euthanasie est évidemment absent, mais là, vous l'avez dit en introduction, avec une sémantique bien choisie qui cache quoi, selon vous ?
Oui, alors je vous entends assez mal, Clara. Oui, de fait, la sémantique bien choisie en ce sens que on ne parle jamais d'euthanasie ni de suicide assisté, c'est une aide à mourir. On a l'impression que c'est l'aide à mourir, ça peut être aussi bien apporter un soulagement, des soins palliatifs, ça ce serait une véritable aide à mourir, mais en l'occurrence, il s'agit bien pour un médecin d'évaluer son patient, de passer par quelques petites cases de vérification obligatoire qui sont assez minimes, et puis s'il estime que son patient, ou d'ailleurs le patient qui se présente devant lui et qu'il ne connaît pas tant que ça, s'il estime qu'il est en phase terminale ou quasi, et qu'il souffre de manière insupportable sur le plan physique ou psychologique, il peut lui faire un billet de sortie, si vous voulez, et qui est en réalité un véritable arrêt de mort. Le médecin déclare qu'il doit pouvoir bénéficier, entre guillemets, de l'aide à mourir, et c'est le médecin qui va lui établir une prescription de substances létales que le malade va pouvoir avaler.
Et donc, le critère, c'est la souffrance ou le fait que la maladie soit incurable ou les deux ?
Les deux. Les deux. Il faut le caractère avancé de la maladie. Alors, avancé, c'est un terme flou et ambigu parce que un stade avancé, ça ne dit pas grand-chose sur le moment où on attend la mort. Mais je dirais que cela est assez secondaire. Parce que ce qui cloche dans la loi, c'est que le médecin prescrit la mort. Et c'est ça l'aspect fondamentalement anti-humain et anti-éthique qui caractérise cette loi.
Alors, nous, depuis hier, donc, les parlementaires ont à nouveau à se prononcer sur cette loi. On sent du côté de l'exécutif et particulièrement du président Macron la volonté de faire adopter rapidement ce texte. Je crois qu'on a parlé du 15 juillet, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Comme s'il y avait une véritable urgence.
Oui. En fait, il est clair qu'Emmanuel Macron veut marquer la fin de son second quinquennat par l'adoption de cette loi qu'on dit sociétale, qui est en réalité tout ce qui est le plus antisocial. Le texte a fait l'objet quand même de beaucoup de critiques, et notamment de la part des soignants, des médecins. Il y a eu une évolution en plus de l'opinion publique à son sujet. On a mis au jour la tricherie des sondages qui font apparaître un soutien large à la loi, alors que ce soutien large de la population est tout à fait douteux. Et avec cette seconde lecture, il y a une procédure d'urgence tout de même pour faire avancer le texte, alors que les vacances arrivent. L'Assemblée nationale va voter solennellement le 30 juin, après la fin des débats prévus pour vendredi, pour le 26, et au terme de ce vote solennel, qu'on suppose positif, alors même que le nombre de voix favorables continue de diminuer, eh bien, au terme de cela, le texte sera définitivement adopté selon les termes votés par l'Assemblée nationale le 15 juillet, adopté le 15 juillet. Envers et contre la volonté du Sénat. En cette occurrence, l'accord des deux chambres n'aura pas été requis. C'est l'Assemblée qui l'emportera. Cela a été d'ores et déjà décidé.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la différence finalement entre aide à mourir, suicide assisté, euthanasie, et pourquoi ces distinctions comptent ou peut-être ne comptent-elles pas, et qu'il faut garder juste l'esprit de la loi, à savoir finalement légiférer sur une euthanasie beaucoup plus large?
Eh bien, il faut définir les termes. Effectivement, dans d'autres pays, on adopte carrément une loi sur le suicide assisté. C'est le cas en Suisse qui a adopté cette loi qui permet aux personnes, aux Suisses, mais aussi aux touristes de l'euthanasie, de venir se faire éliminer sur place. Mais cela se fait, le suicide assisté, avec un geste posé par le patient. Il va recevoir une substance létale prescrite par un médecin et il l'avale tout seul. L'euthanasie, au contraire, si je puis dire, même si on est dans le même, c'est la même réalité, hein, c'est une mort délibérément administrée à une personne qui veut mourir. Dans le cadre de l'euthanasie, c'est un médecin, un professionnel de santé, c'est quelqu'un qui va administrer un poison qui provoque la mort, d'abord en relâchant les muscles, en induisant un coma, et puis au moyen d'un poison qui fait perdre la vie. Alors ça ne marche pas toujours très très bien, parfois il y a des ratés, parfois le relaxant musculaire n'est pas au point, parfois il y a des agonies qui se prolongent, ça n'est pas forcément la mort douce que l'on promet. Donc, euthanasie, le geste d'un tiers, suicide assisté, le patient lui-même absorbe par un acte volontaire, un acte physique, le poison qui va le faire mourir. L'aide à mourir, après, ça ne veut pas dire grand-chose. L'aide à mourir, dans l'esprit de la proposition de loi, c'est bel et bien administrer la mort. Mais l'aide à mourir, comme je le disais antérieurement, c'est véritablement être aux côtés de la personne et aider à franchir ce grand pas qu'est le passage de vie à trépas.
Alors, ce texte a un visage, des soutiens et des opposants qui le portent politiquement. Et qui en est le moteur et face à eux, qui résiste et au nom de quoi? On peut penser à l'Église, aux politiques, aux soignants, mais qui en fait? Quelles actions concrètes sont menées contre?
Alors, le texte est porté par Olivier Falorni, député socialiste, donc c'est une proposition de loi, ce n'est pas le gouvernement qui a fait un projet, mais le gouvernement le soutient comme on l'a dit déjà, hein, coûte que coûte, et le Parlement abonde en acceptant une procédure d'urgence pour faire adopter la loi. Ça, c'est les pour, on les trouve à peu près partout, plus à gauche qu'à droite. Il y a le cas d'un communiste au moins qui a voté contre à l'Assemblée nationale déjà, mais on a ainsi beaucoup de soutien à gauche. Il y a également des soutiens à droite, mais je dirais que ceux qui ont le plus bataillé contre ce texte, ce sont les Républicains. Tant mieux, ça fait plaisir quand même qu'ils prennent une position pro-vie pour une fois, parce qu'ils ont souvent aidé quand même cette famille de politique sous ces diverses dénominations, a souvent quand même aidé à l'adoption de lois de mort. Le RN est divisé sur la chose, mais le RN a fait quelque chose de tout à fait intéressant
allez-y, je vous en prie, au contraire. Pour une fois, oui, une bonne nouvelle.
C'était donc le 23 juin, un élu RN, Christophe Benz, a fait adopter au nom du devoir des médecins de respecter le serment d'Hippocrate, il a fait voter un amendement au terme duquel, vous m'entendez
toujours ? Oui, tout à fait.
Oui, au terme duquel le médecin ne saurait administrer l'euthanasie, c'est-à-dire suppléer à une incapacité du patient à avaler lui-même la substance létale. Ça fait partie des dispositions de la loi. Il y a bien sûr des gens qui sont tétraplégiques ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas en mesure d'avaler elles-mêmes ces personnes la substance létale. Dans ces cas-là, le médecin, au terme du texte, devait pouvoir suppléer en administrant le poison d'une façon ou d'une autre, en piquant la personne, par exemple. Et ça a été écarté par les députés qui, le 23 juin au soir, ils n'étaient pas très nombreux, ont adopté, et au nom du serment d'Hippocrate, je n'attendrai pas à la vie, cette possibilité. Donc ça, c'est vraiment très bien. On sait que le rapporteur Monsieur Valtou en a été outré. Il a dit mais c'est scandaleux, vous modifiez l'équilibre du texte et en plus vous introduisez une division entre les médecins et les infirmiers. Les infirmiers ne sont pas concernés par cet amendement. À ce moment-là, Christophe Benz avait répondu oui, mais vous ne perdez rien pour attendre. En gros, on va faire un amendement similaire pour les infirmiers pour empêcher que le personnel soignant puisse être amené à exécuter un geste de mort. Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est que au terme de la loi, c'est bien un médecin qui décide si un patient va pouvoir, oui ou non, se donner la mort avec assistance médicale ou être éliminé par le médecin. Dans tous les cas, c'est le médecin qui signe l'arrêt de mort en approuvant une telle fin de vie.
Alors donc, pour résumer, donc pour nos auditeurs de Radio Courtoisie, parce que le 23 juin au soir, donc à 21h30, l'Assemblée a adopté un amendement RN qui exclut les médecins de l'administration de la substance létale au nom du serment d'Hippocrate. C'était la base sur laquelle ils se sont appuyés, mais contre l'avis du rapporteur évidemment et du gouvernement. Alors résultat, ce serait juste, juste entre guillemets, hein, les infirmiers et les infirmières seuls qui administreraient la mort. Mais ça fragilise encore plus l'ensemble du dispositif, ça devient parfaitement incohérent tout ça.
Oui, complètement. Et une fois de plus, comme je vous l'ai dit, de nouveaux amendements sont annoncés pour étendre cette interdiction aux infirmiers, qui, à mon avis, je pense que c'est une miséricorde qu'on leur ferait, parce que administrer la mort, ça n'est pas simple. Alors, je lis beaucoup ce qui se passe aux Pays-Bas, mon pays qui est mon pays de nationalité, où l'euthanasie est légale depuis 2001. Pour beaucoup de médecins, c'est quand même, ils témoignent de la difficulté qu'il y a au départ à pousser la seringue. Alors souvent, Le temps faisant son œuvre, ils s'y habituent et à la fin, je crois qu'ils y prennent même un certain plaisir. C'est assez abominable. Mais fondamentalement, l'infirmier, le médecin, le soignant n'est pas fait pour donner la mort. Et ça, l'avoir fait reconnaître par le biais de cet amendement RN, je trouve que c'est vraiment une excellente chose,
Voilà.
avec toutes les limites qu'il faut ajouter.
Mais bon, on peut aller que comme ça. Ils usent aussi des moyens qu'ils ont à leur disposition qui ne sont pas non plus pléthores. Hein. Et donc, vous le disiez, vous, et vous m'avez anticipé, donc l'exemple belge ou néerlandais, hein, votre pays d'origine, est souvent cité, hein, notamment par les partisans de ce projet de loi. Mais qu'est-ce que ça nous apprend des dérives possibles et qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce pays cité en exemple par les partisans de ce texte?
Alors, les dérives, on les a beaucoup constatées aux Pays-Bas déjà. Alors, je sais qu'il existe des études qui disent, mais non, pas du tout, il n'y a jamais rien, n'a jamais changé, mais si, on le voit très fortement dans l'histoire de cette loi aux Pays-Bas, la loi d'euthanasie, qui a été étendue dans un premier temps aux enfants. Aujourd'hui, il est possible d'euthanasier un enfant qui en fait la demande contre la volonté de ses parents. Hein. Donc,
C'est terrible, hein.
on est allé assez loin. Et puis, il y a eu aussi une dérive. Une première dérive qui était inscrite dans la loi d'emblée, mais qui n'était pas appliquée, si vous voulez, c'est la question des personnes qui ne sont plus en état d'exprimer leur volonté. Alors, d'emblée, la loi néerlandaise avait prévu ce cas en disant que les gens pouvaient laisser des directives anticipées. Alors, je précise tout de suite, la proposition française ne prévoit pas cette possibilité, en tout cas pas encore. En France, il faut l'expression de la volonté de la personne et il faut qu'elle soit réexprimée le jour de l'administration de la substance létale. Aux Pays-Bas, ça n'était pas le cas, mais les médecins rechignaient énormément à mettre en œuvre ces directives anticipées. Alors, je pense aux personnes démentes, aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives qui font qu'elles ne sont plus en état même de savoir qui elles sont. Les médecins ne marchaient pas dans la combine. Ce qui a fait fleurir des euthanasies de précaution, des personnes qui étaient en voie de devenir démentes et qui demandaient à être piquées avant de perdre leur capacité à exprimer leur volonté. Et ça s'est fait quand même assez souvent.
De façon
Alors, ça se compte
conservatoire, mais
en.
sans retour en arrière possible. Du moins, c'est pas encore prouvé.
Oui, enfin, c'est fou. En tout
Oui.
cas. Des dizaines de personnes sont mortes ainsi, et puis on dit, mais c'est quand même dommage, ces gens auraient pu avoir plusieurs années de vie encore, et aujourd'hui, on en est à un respect, entre guillemets, des directives anticipées qui s'étend. Donc, aujourd'hui, aux Pays-Bas, on pique les gens qui sont démentes ou qui ont la maladie d'Alzheimer. Ça ne pose plus de problème. Et puis, on a aux Pays-Bas aussi, mais c'est vrai aussi en Belgique, on a des euthanasies de couple, des gens qui n'ont pas envie de poursuivre leur vie seule après la mort de leur conjoint ou de leur partenaire et qui obtiennent une piqûre à deux, si vous voulez. Et aussi aux Pays-Bas, l'euthanasie directe des personnes ayant des affections psychologique ou des traumatismes graves. Et là, on arrive à des folies complètes. Une jeune femme qui a été violée dans sa jeunesse et qui obtient une euthanasie alors qu'elle est en parfaite santé physique, maintenant, ça se fait. Et ce qui est très, très frappant aux Pays-Bas, c'est que les reportages au sujet de ces euthanasies sont toujours sur le ton, ah, c'était beau, ah, c'était magnifique, ah, ce que c'était bien, vraiment, nous sommes reconnaissants, quel beau moment. Donc, il y a vraiment une inversion des valeurs qui se fait, et je pense que c'est peut-être ça, la dérive la plus subtile et la plus néfaste, c'est que finalement, la mort est vraiment donnée comme solution, et elle est donnée comme solution qui est bonne, alors que la poursuite de la vie serait mauvaise. Et là, à partir de là, toutes les évolutions sont possibles.
Qu'en est-il aujourd'hui des soins palliatifs en France? Est-ce que au moins ces débats ont le mérite de relancer la nécessité d'avoir des soins palliatifs pour tout le monde ou pour le plus grand nombre en France, qui est loin d'être le cas?
Alors, l'adoption d'une loi instituant un droit aux soins palliatifs et leur extension, alors qu'en effet, je crois que le nombre de départements où les personnes malades qui souffrent énormément y ont accès ne dépasse pas les 30 ou 50%. Une fois de plus, j'ai oublié le chiffre. Mais oui, il y a un manque de soins palliatifs et en même temps un développement des soins palliatifs dans certains lieux qui est admirable et qu'on ne constate pas, par exemple, aux Pays-Bas où l'euthanasie est facile d'accès. Et ça a fait que les soins palliatifs sont devenus un peu le parent pauvre de la médecine. Donc, en France, soins palliatifs insuffisants, excellents quand ils existent, mais je suis quand même frappée par le fait que c'est justement au moment où, malgré tout, les soins palliatifs, la gestion de la douleur en particulier, ça ne fait pas forcément en unité de soins palliatifs, mais la gestion de la douleur progresse, c'est précisément à ce moment qu'on veut légaliser l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté. C'est vraiment pendant des siècles, ça n'a pas existé. Alors je veux bien qu'à certains moments, on ait étouffé un patient tétanique avec un oreiller, Léon Daudet raconte ça. Ça a pu exister dans des situations vraiment extrêmes ou exceptionnelles. Mais il était entendu que, eh bien oui, la mort est difficile, elle peut être accompagnée d'une agonie terrible, mais les gens ne réclamaient pas le droit à l'euthanasie. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile de gérer la douleur, même si parfois c'est lourd, c'est compliqué, ça peut un peu abréger les jours des patients, mais c'est précisément à ce moment-ci où on en a le moins besoin, entre guillemets, si on veut entrer dans leur logique, qu'une proposition de loi est en train d'être adoptée.
Alors, en plus de tout, le vrai message envoyé aux personnes âgées, aux personnes malades ou handicapées est assez mortifère hein, dans ce projet de loi, ça vous l'avez bien rappelé. Est-ce qu'il y a encore une chance que ce texte soit rejeté ou profondément amendé? Quelle est votre opinion là-dessus?
Alors, j'ai peur d'exprimer une opinion et des prédictions parce que au fond on est plus souvent démenti qu'autre chose. Malheureusement, je pense qu'il y restera une majorité pour cette proposition de loi. Alors, au moment où nous sommes le 24, au moment où cette émission sera diffusée, le vote aura eu lieu. Nous verrons bien. Mais où sera en cours de réalisation. Ce qui me semble, c'est que pour une fois, il y a tout de même beaucoup de voix qui s'élèvent contre. Peut-être cela suffira-t-il. Alors d'une part, il y a une grande manifestation qui aura lieu le dimanche 28 de 16h à 18h et qui a été lancée par un groupe de personnes qui sont finalement assez inattendues. Ce ne sont pas les suspects ordinaires, comme on dit, ce sont des gens de la société civile. Alors, il y a Bérou, tant mieux, au moins il y a un politique qui a le courage de le faire. Il y a aussi des responsables de soins palliatifs, il y a des médecins, il y a toutes sortes de gens de la société civile qui sont reconnus dans leur domaine, qui ont apporté leur soutien à cette manifestation. Donc ça, qui sait, peut-être cela jouera-t-il un peu. Il y a également les évêques de France qui, pour une fois, sont clairs dans leur opposition, très clairs, et qui ont décidé la riposte au moyen de la prière. Ce n'est pas non plus le cas à chaque fois. Cette fois, c'est une neuvaine qui a commencé le 21 juin et qui devait se terminer donc pour le jour du vote solennel par l'Assemblée. C'est une belle initiative. Et si on croit à la force surnaturelle de la prière, eh bien oui, peut-être que cette loi ne sera pas adoptée, et tant mieux.
Alors, je voulais parler aussi avec vous, Jeanne Smith, de la venue du pape en France, pour un sujet un peu plus léger, hein, qui aura lieu en septembre. C'est une visite qui est très attendue. Quel est le programme et pourquoi la France maintenant ?
Pourquoi la France maintenant? Eh bien, le programme, on en parlera un peu juste après, mais pourquoi la France maintenant? Eh bien, oui, on peut se poser la question, puisque le pape François n'a jamais accepté l'invitation officielle de la France qui l'aurait mené à Paris et peut-être dans d'autres villes. Il est venu en France à plusieurs reprises, mais un peu sur la pointe des pieds et en protestant que ce n'était pas vraiment la France. On se souviendra qu'il était venu à Strasbourg, au Parlement européen. Il est venu à Marseille. Il a dit finalement que Marseille, pardon, ce n'était pas vraiment la France. Et puis il est allé en Corse, même chose. On pouvait jouer sur une ambiguïté. Il n'aimait pas, il ne voulait pas venir en France. On n'a jamais vraiment su la raison profonde, mais Léon XIV, très rapidement après son élection, avait envoyé une lettre extrêmement belle à la France à l'occasion de l'anniversaire, enfin, c'était un anniversaire du curé d'Ars et un anniversaire de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il avait envoyé une lettre très belle. Il parle français, il a des ascendances françaises. Et il réserve à la France l'une de ses premières visites officielles après la Turquie, le Liban, après l'Algérie, après l'Espagne tout récemment. Enfin, il y a eu quelques voyages, mais la France est tout de même en haut de sa liste de pays visités. Je pense qu'il y a une appréciation de la France et c'est tant mieux. Il viendra donc à Paris. Du 25, les 25 et 26 septembre, avec des vêpres à Notre-Dame, avec Notre-Dame toute restaurée, bien sûr, avec une veillée de prière dont le programme reste à définir. Il y a tout n'est pas exactement prévu, tout sera en ligne sur le site pape-france.fr, qui est un site des évêques de France. Il y aura donc de grands rassemblements à Paris et une visite à l'UNESCO. Alors, on peut se demander ce que ça va donner parce que l'UNESCO n'est pas spécialement pro-catholique, c'est même plutôt l'inverse. Mais voilà, le pape va s'y exprimer et c'est certainement une bonne chose.
Est-ce que le pape Léon XIV a une portée politique quand il se déplace comme ça? Est-ce que c'est son style? Est-ce que c'est son envie, vous pensez? Est-ce que c'est le message caché?
Oui, alors je suis désolée, je ne vous entends pas très bien. J'espère que ça passe mieux en technique.
Oui,
Mais
je vous interrogeais, Jeanne Smith, sur la démarche. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a derrière une dimension politique assumée dans cette visite?
alors, c'est bien possible. C'est bien possible. Il y a donc cette visite à Paris, il y a une visite à Metz, une visite à Lourdes. On peut penser que le pape s'exprimera sur le plan politique, car il l'a fait déjà lors de ses précédentes visites. Il l'a fait en Algérie, il l'a fait en Espagne et très fortement. Alors, sur un double aspect, je crois qu'il faut regarder un peu ce qui s'est passé en Espagne pour sonder un peu, pour prendre la température de ce qui pourrait se passer en septembre. En Espagne, le pape a beaucoup parlé, a fait un très grand discours aux responsables politiques, tous les parlementaires et puis les responsables des hautes cours espagnoles, pour leur parler notamment du respect de la vie depuis la conception jusqu'à sa fin naturelle. Il a parlé de il a eu un discours qui était, je dirais, extrêmement courageux dans ce pays socialiste où la dérive des lois de culture de mort est rapide et continue. Il s'est fait applaudir à tout rompre par son auditoire politique, ce qui avait quelque chose d'un peu paradoxal, parce que l'Espagne est quand même très très avancée dans le domaine de la culture de mort. Mais voilà, il a fait entendre cette voix avec courage, avec précision, avec un aspect surnaturel aussi, qui était très bien, de très bon aloi. Il a parlé également beaucoup de l'immigration en Espagne. Alors là, c'est une autre paire de manches. Il s'est rendu aux Canaries où beaucoup de migrants arrivent. Il s'est rendu à Tenerife. Même chose, beaucoup de migrants, soit africains, soit américains du Sud. Il s'est adressé notamment aux catholiques d'Amérique latine qui viennent nombreux en Espagne, mais il y a aussi cette immigration africaine, en grande partie musulmane, où il a eu, pour cela, il a eu des mots peut-être irénique, évoquant la chance que peut être l'immigration pour le pays d'accueil. Or, on sait que l'Espagne, qui est en train de légaliser 1 million d'immigrés clandestins, est dans une situation quand même compliquée, on pourrait dire, pour dire les choses légèrement. Je pense que le pape a pour la migration une certaine sympathie, mais en même temps, et il faut le souligner aussi, il parle beaucoup du droit des migrants de rester chez eux, d'éviter justement l'émigration. Il souligne que l'émigration est une souffrance, c'est un déracinement, et il parle autant du droit des migrants de rester chez eux et du devoir de trouver des conditions de paix et des conditions de développement économique dans les pays d'origine que du droit d'aller ailleurs. Donc ça, c'est une rupture c'est par intéressant. Rapport au discours de François.
Du pape François, oui. Donc il y aura une espérance à tirer de ce voyage pour les catholiques de France, hein, mais aussi au-delà, en tout cas pour tous ceux qui cherchent des repères dans une société, on l'a vu en première partie d'émission, hein, grâce à vous, Jeanne, qui semble avoir un peu perdu le sens de la vie et du sacré. Écoutez, merci beaucoup, Jeanne Smith, de votre intervention. Il n'a jamais fait aussi chaud dans les studios de Radio Courtoisie. Et la Bretagne n'a jamais été aussi chaude, mais aussi loin aussi, parce qu'on a eu des gros problèmes techniques. Mais je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie le comprendront. Et la portée de votre message et de vos explications, en tout cas, a couvert brillamment toutes ces hésitations caniculaires. Merci à vous, Jeanne Smith. Je vous souhaite une belle baignade, au moins, en Bretagne. Car au moins, vous avez la mer. Merci à vous.
Merci, Clara. Vos paroles étaient trop gentilles. En tout cas, comme toujours, vos questions sont épatantes. Merci de nous avoir fait de nous avoir donné la possibilité de faire le tour de la question.
Alors, Jeanne Smith, merci. Je voulais aborder avec vous un autre thème qui est celui de l'école à la maison, que j'ai intitulé « Liberté, contrôle et angle mort ». Un sujet que personne ne relie habituellement à votre combat, Jeanne Smith. Et pourtant, en 2025, plus de 30 000 enfants sont instruits en famille en France. Certaines estimations évoquent même entre 50 000 et 60 000, en comptant les situations non déclarées. Ce sont des enfants que l'école ne voit plus, que les enseignants ne voient plus, que les médecins scolaires ne voient plus. Du point de vue de la protection de l'enfance, si je veux rattacher ça à mon précédent interlocuteur Michel Hamas, est-ce que ça vous préoccupe ou c'est quelque chose qu'il faut encourager et que la loi du 24 août 2021 dit séparatisme prend à contresens?
Alors, oui, bien sûr, contre l'école à la maison, il y a beaucoup d'arguments qui sont brandis, celui du manque de socialisation des enfants, celui du fait que lorsqu'ils sont dans des situations d'abus de la part de leurs parents, c'est plus difficile à déceler. Ils ne voient pas les médecins scolaires. Bon, on connaît la musique et je pense qu'elle est assez malhonnête. Parce que, alors d'une part, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits auprès des enfants. Et d'autre part, ils ne vivent pas en suspension dans la société, en tout cas quand les choses vont bien. Au contraire, avant cette fameuse loi, avant les restrictions successives de l'instruction à domicile qui ont été votées en France, les enfants qui faisaient l'école à la maison pouvaient se retrouver avec d'autres enfants dans la même situation pour avoir, par exemple, des cours de sciences ou des sorties éducatives. Une instruction qui se faisait finalement en groupe avec des parents motivés qui éventuellement faisaient intervenir des gens. Tout ça est maintenant interdit et l'enfant instruit à la maison l'est de manière exclusive par ses parents. C'est-à-dire qu'il ne peut pas suivre des cours avec d'autres enfants qui sont dans la même situation que lui. Or, si on prend l'exemple des États-Unis, où l'école à la maison est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent, c'est ainsi que ça fonctionne. Les gens se mettent ensemble, ils mettent leurs compétences en commun. S'il y a un parent qui est très doué en maths, c'est lui qui va faire les maths à une série d'enfants. Ça fonctionne de façon beaucoup plus rationnelle, je dirais, qu'en France, où l'enfant est aujourd'hui, de par la loi, de par les restrictions de la loi, renvoyé dans ses seuls buts, dans son seul foyer. Et ça peut être un problème, même si dans l'ensemble, il faut le dire aussi, la plupart des enfants qui sont instruits de cette manière ont des activités avec d'autres enfants, ça ne manque absolument pas, que ce soit par le scoutisme, le sport, toutes sortes d'associations. Ce sont des enfants qui ne sont absolument pas en apesanteur, ils sont bel et bien intégrés dans la société. Or, il y a une sorte de méfiance à l'égard des parents vis-à-vis des enfants. Les cas d'abus existent, on le sait bien, les abus de toutes sortes, les violences, y compris les abus sexuels, eh bien oui, et là, ça existe partout, mais ça n'est absolument pas la majorité. Or, dans ce cas précis, c'est la majorité des parents qui en souffrent, puisqu'il devient de plus en plus difficile de faire l'école à la maison en France, on pourra en dire un petit mot. Mais ce qui est frappant, c'est que on tire parti de ces abus pour imposer une loi à tous, et on oublie le principal, et c'est quelque chose que Léon XIV, il faut le rappeler aussi, a dit devant les politiques espagnoles, devant le Parlement espagnol. Le premier éducateur des enfants, les premiers éducateurs, ce sont les parents. L'école n'intervient qu'à titre subsidiaire. Elle vient compenser ce qui peut être considéré comme des lacunes. Une mère qui n'a pas d'aptitude pour ça ou qui n'est pas spécialement scolaire, etc., va confier son enfant à l'école, mais c'est elle qui a la responsabilité de ça.
Vous savez bien, John Smith, que ça titille l'État depuis au moins la Révolution d'avoir à mettre la main sur nos petites têtes blondes pensantes via l'éducation nationale.
Donc, c'est exactement ça.
Si on revient à la genèse, en fait, c'est Emmanuel Macron, si je me souviens bien, qui dans son discours au Mureaux, il me semble, en 2020, a annoncé vouloir interdire l'instruction en famille. Et la loi dite séparatisme, drôle de nom d'ailleurs, on peut peut-être y revenir, a finalement maintenu cette instruction en famille, mais sous conditions strictes. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, entre l'annonce 2020 d'une interdiction totale et puis finalement le texte final, qui est une sorte de recul, mais qui n'est pas forcément rassurant pour autant?
Non, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui étaient dans la situation d'instruction à la maison. Aussi, tout ce monde-là déferle d'un seul coup dans les écoles publiques, évidemment, il y a un petit problème d'accueil. Mmh. Il y a le fait que un certain nombre de communautés y sont attachées et ils ont quand même pesé pour faire respecter ce droit. Il y a le fait que l'école à la maison, dans le cadre de la loi séparatiste, était surtout, enfin ça c'était vraiment l'habillage du texte, on comprenait très bien que c'était pour contrer des dérives islamistes avec des enfants dans des foyers, auprès de parents qu'on a coutume d'appeler radicalisés, qui seraient embrigadés là-dedans. Donc il y avait une volonté d'éviter cela, une volonté…
Le communautarisme aussi, finalement, la radicalisation.
Voilà. Or, il se trouve que ça touche en France beaucoup de catholiques, beaucoup de parents catholiques font l'école à la maison, mais pas seulement. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas satisfaits du système scolaire actuel. Or, je crois que le principal motif, c'est quand même de vouloir imposer la pensée que diffuse l'école sur tous les plans. Donc, ça va de l'éducation sexuelle et affective, dont on connaît les dérives. Ça va de tout le discours écologiste, de tous les cours qui sont sur le plan de la laïcité, parfaitement cadrés pour correspondre à une certaine idéologie. Et donc, il y a la volonté de faire ça. La loi a imposé de plus en plus de contrôle sur les contenus de ce qui est enseigné. Et en quelque sorte, on a coupé la poire en deux, on a laissé l'école à la maison se faire, mais avec des contrôles très accrus et qui sont de surcroît imprévisibles. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un agrément préalable afin d'instruire son enfant. Alors, certains, pour des raisons de maladie, pour des raisons de déménagement extrêmement fréquent, etc. Il fallait à tout prix maintenir l'école à la maison pour ça, mais de manière plus large, les agréments sont aujourd'hui nécessaires, et d'une académie à l'autre, on a des choix qui sont extrêmement divers. Donc, une famille qui habite dans une région où les inspecteurs sont assez ouverts, ça se passe bien, elles vont avoir leur agrément. Dans d'autres zones, c'est quasi impossible, même pour une institutrice qui a exercé pendant X années auprès de jeunes enfants, elle ne va pas recevoir un agrément parce qu'il se trouve que dans l'académie où elle est, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors vous qui couvrez Jeanne Smith, les auditeurs de Radio Courtoisie le savent bien, la politique internationale aussi, hein, dans les pays voisins, Belgique, Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, l'instruction à domicile est-elle aussi encadrée qu'en France? Et est-ce que la France fait figure d'exception dans sa méfiance, voire défiance envers les parents?
Alors, c'est très divers selon les pays. Il y en a beaucoup qui, notamment à la faveur du Covid et des confinements, il y a eu une plus forte demande d'instruction à la maison parce que les parents se sont rendus compte des défaillances de l'éducation nationale. Selon les pays, les réponses sont diverses. En Allemagne, c'est assez compliqué. Souvent, on reproche aux parents d'avoir des convictions religieuses et de chercher à les transmettre à leurs enfants. Et là, on ne parle pas de radicalisés islamiques, mais de de catholiques ou de chrétiens protestants, évangéliques, etc. Ça devient assez compliqué un peu partout et dans certains pays, c'est même. Alors, je ne pourrais pas vous en donner la liste complète. Mais je sais que la Cour européenne des droits de l'homme affirme un certain droit à l'école à la maison, mais très, très encadré et finalement donnant assez d'éléments aux différents États qui veulent mettre des bâtons dans les roues de cela pour que ce soit très difficile. En Italie, par exemple, les parents qui font l'école à la maison sont excessivement rares. Et je pourrais citer l'exemple du Brésil où tout récemment, au mois d'avril, un couple qui fait l'école à la maison, ils ont deux filles, 11 et 15 ans, qui parlent plusieurs langues, qui font de la musique, etc. Ils ont été condamnés à 50 jours de prison. Alors, c'est en cours d'appel, donc il n'y a pas d'exécution pour l'instant, mais ils sont condamnés à 50 jours de prison pour avoir décidé d'instruire leur fille à la maison, alors que ces petites jeunettes là sont extrêmement douées. Et qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche que leur fille ne connaisse pas la musique folklorique du coin et soit plus intéressée par la musique classique et le piano. Voilà. Donc on a des situations complètement délirantes. Et dans beaucoup de pays du monde, un pays où l'instruction à domicile marche très très fort et très bien, ce sont les États-Unis.
Alors un petit rappel historique, hein, si on reprend la loi fondatrice de Jules Ferry de 1882 qui a rendu l'instruction obligatoire, elle précisait explicitement qu'elle pouvait être assurée, je cite, « soit dans les établissements d'instruction primaire, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou pour toute autre personne qu'il aura choisie ». Et ce droit avait 140 ans quand Emmanuel Macron a finalement choisi une rupture assez historique avec ce principe fondateur de la République française. Et puis on peut aussi dire à nos auditeurs et le rappeler que la liberté d'enseignement est inscrite dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel d'ailleurs l'a reconnue comme principe fondamental, reconnu par les lois de la République. Comment l'État peut-il à la fois se réclamer de ce principe et finalement soumettre les parents à une autorisation préalable pour instruire leurs propres enfants? Donc finalement, mettre son nez dans ce qui devrait rester une véritable liberté. Et puis pour rebondir, Jeanne Smith, en fait, il y a la fameuse phrase aussi de Vincent Peillon, on en parlait juste avant, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était devenue une référence, triste référence d'ailleurs dans ce débat, mais qui avait dit en 2012 qu'il fallait, je cite, « arracher l'élève à tous les déterminismes familiales, ethniques, sociales et intellectuels ». Alors derrière cette loi, finalement, est-ce que tout ça ne se cache-t-il pas?
Oui, c'est évident, ce sont des motivations idéologiques. Macron a porté un coup de massue, sinon un coup de grâce, mais avant lui, il y avait eu d'autres restrictions à l'école à la maison, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir la faire à plusieurs familles ensemble. Ça fait un bon moment qu'on cherche en effet à s'assurer que les enfants deviennent de bons petits citoyens et qu'ils soient instruits selon la pensée diffusée au nom de la République par les écoles, une pensée qui est tendancieuse, qui est idéologisée, on le sait très bien. Donc oui, il y a une logique, il y a un rejet de ce qui était l'idée de l'instruction jadis. Et d'ailleurs, on avait un ministère de l'instruction nationale et pas de l'éducation.
Exactement. Donc, voilà, ce qui veut dire beaucoup. Les mots ont un sens dans ce cas-là.
Voilà. Et aujourd'hui, avec l'obligation scolaire des 3 ans, eh bien, on arrive à des situations complètement délirantes quand même.
Alors, il y a aussi une certaine ironie que je trouve assez cruelle dans le calendrier, à savoir la loi de 2021 a été finalement votée au nom de la protection de l'enfance, de la lutte contre le communautarisme. Et puis en 2026, on découvre une triste actualité que c'est dans les écoles publiques, périscolaires, que des enfants sont agressés sexuellement. Je fais évidemment référence au scandale du périscolaire à Paris et des multiples personnes, alors évidemment encore soupçonnées et pas condamnées, bien sûr, et on respecte ici la présomption d'innocence, mais quand il y a plusieurs dizaines, on peut quand même largement s'intéresser, ce qui n'est pas forcément fait. Donc, des enfants sont finalement agressés au sein même des écoles. Maître Hamas, Michel Hamas, avocat à Marseille, et c'est son combat, mentionne également que les foyers de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sont, et là il l'affirme, preuve à l'appui, aussi des portes ouvertes vers des circuits proxénètes pour des mineurs. Et est-ce que l'État finalement a la légitimité morale pour se poser en garant de la protection de l'enfant contre la famille quand on voit cette actualité ?
Je suis d'accord avec vous, il ne l'a pas. Hélas, il est naturel et normal que l'État joue un rôle de protection auprès des enfants, qu'il fasse ce qu'il faut pour être au courant des situations de violence ou d'inceste et de toutes les horreurs que des enfants subissent, hélas, dans leur foyer, mais dans leur famille plus exactement, alors que on sait très bien, et parce que les faits divers nous le montrent assez, qu'il y a un certain nombre d'enfants qui souffrent justement dans les foyers où ils sont soumis à toutes sortes de pratiques abominables.
Et que l'État a du mal à regarder en face, si on écoute en tout cas.
Et que l'État ne regarde, semble-t-il, pas assez. Et à Paris, ça a été évident. Et on sait aujourd'hui, à la faveur de ce déballage à Paris, eh bien, on s'aperçoit que ça ne se limite pas à Paris et qu'il y a des dizaines, voire plusieurs centaines de dossiers qui sont ouverts. Dans le pays.
Alors, vous l'avez dit, Jeanne Smith, pour finir, l'éducation à la maison, ça concerne en grande partie, en tout cas, les familles chrétiennes en particulier. Est-ce que l'instruction en famille, c'est évidemment un choix pédagogique pour elles, mais c'est peut-être aussi une façon pour ces familles de transmettre une foi, une vision du monde, une culture que l'école publique ne peut plus ou ne veut plus porter. Est-ce que c'est une dimension importante dans le choix de ses parents et de ses familles ?
Je crois que c'est l'une des dimensions importantes. Pour beaucoup, je pense que ça peut être une dimension essentielle dans la mesure où l'instruction publique, l'école publique revendique la laïcité et ne permet pas cette transmission de convictions. Mais il n'y a pas cela seulement dans un nombre de familles. On fait ce choix pour des motifs pédagogiques parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la France peine dans toutes les instances internationales qui mesurent les performances, si je puis dire, des enfants scolarisés. La France est en baisse continue, que ce soit en mathématiques, en lecture ou dans d'autres domaines. Et les parents, ils l'ont remarqué beaucoup au moment du Covid, se sont dit qu'il fallait réagir. Et donc, vous avez des parents qui n'ont pas de conviction religieuse particulière, mais qui font quand même ce choix de faire l'instruction à la maison.
Et justement, si on avait un mot pour finir pour les parents qui nous écoutent ce midi et qui hésitent soit à retirer leurs enfants d'une école où ils souffrent, c'est aussi un lieu de souffrance, on l'a vu, soit à les confier à un système dont ils se méfient, qu'est-ce que vous auriez, vous, à leur dire, Jeanne Smith ?
Alors, je dirais que l'école à la maison est un choix que je trouve très beau, que je n'aurais jamais fait parce que je n'aurais pas eu ni la patience, ni le temps, ni les aptitudes pour faire cela. Je pense que la France a la chance d'avoir un réseau d'écoles indépendantes, d'écoles hors contrat qui grandit et un intérêt vraiment croissant pour ces écoles. Et la Fondation pour l'école a commandé un sondage tout récemment qui a montré que une écrasante majorité de Français, toute tendance politique confondue, est favorable à ce que les parents aient cette liberté de choix Et ça, c'est quelque chose, sur cela, on peut construire, me semble-t-il. Et les parents ont ce choix, et ils peuvent le prendre, de fréquenter les écoles hors contrat et de militer pour que leur effort financier, notamment, soit mieux pris en compte.
Alors, Jeanne Smith, le mot de la fin, si vous pouviez adresser une phrase, on fantasme. Le ministre de l'Éducation nationale, ce soir vous appelle. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, à lui demander, en une phrase ?
En une phrase, arrêtez de desserveler les enfants en leur appliquant des méthodes pédagogiques dont on connaît la nocivité, on la connaît si bien qu'elle ne peut être que volontaire.
Voilà.
Et ça, ce serait important pour tous. Ensuite, la liberté pour tous.
Et la liberté, c'est un thème qui nous est cher dans le Libre Journal de la liberté de penser. Bien, écoutez, Jeanne Smith, merci encore une fois de votre professionnalisme et de votre culture sur tant de sujets et du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui dans le Libre Journal de la liberté de penser sur Radio Courtoisie. Je pense que les auditeurs vous en sont gré. Merci à vous, merci infiniment de votre temps, Jeanne.
Merci à vous, Clara. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission qui est tout aussi professionnelle.
Merci à vous et à très bientôt. Et à très bientôt et profitez de votre Bretagne qui, normalement, devrait être beaucoup plus fraîche, en fait.
Ça va arriver, ça vient.
À bientôt, bonne fin de journée à vous. Et merci aux auditeurs de Radio Courtoisie, du Libre Journal de la Liberté de Penser. N'hésitez pas à réagir, vos questions seront prises en compte et je tenterai d'y répondre avec mes invités.
J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener. Par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener par les rues qui fourmillent tout en draguant les filles. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, en juin aussi d'ailleurs, avec ses bouquinistes et tous ses aquarellistes que le printemps a ramené. Comme chaque année le long des quais, j'aime Paris au mois de mai. Ce qui ne pas dire que j'aime pas Lyon, Marseille. La Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime, j'aime Paris au mois de mai.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Maître Michel Hamas, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Marseille. Vous êtes spécialisé dans la défense des enfants placés. Et vous alertez depuis des années sur ce que la France refuse de regarder en face, des adultes hein, qui livrent à des réseaux des enfants confiés à l'État dans des foyers même censés les protéger. L'actualité, malheureusement, vous a récemment cruellement donné raison avec l'affaire Liana, le scandale du périscolaire parisien. 132 agents suspendus dans les écoles de la capitale. Vous dites vous-même, Maître Hamas, mais ça fait plusieurs années hein, que vous interrogez les pouvoirs publics et les politiques sur la prostitution des mineurs placés. Vous parlez même de pandémie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ?
Mais d'abord, merci de me recevoir. Ce qu'on est en train de vivre est hallucinant. Hallucinant, on a l'impression avec les magistrats avec lesquels nous travaillons d'être sur une autre planète. On a l'impression qu'on nous a collé une armure, qu'on est sur un âne face à des moulins à vent. On a découvert avec les magistrats depuis 2 ans que 20 000 petites jeunes filles et petits garçons qui sont placés dans les services sociaux, c'est-à-dire qui sont normalement être protégés par l'État, sont livrés à des réseaux de pédophilie, c'est-à-dire qu'ils se prostituent à partir des foyers. Que dans tous les foyers français, des enfants se prostituent, alors que les enfants ne se prostituaient pas avant d'être placés. C'est une réalité.
Donc là, on parle des foyers de l'ASE, hein, pour bien expliquer.
Les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Alors, les enfants sont extraits de la famille pour 1000 raisons et souvent, elles ne sont pas bonnes. Il y a énormément de placements abusifs, notamment pour les parents qui se disputent. 60% de mes dossiers, c'est le père et la mère se disputent, c'est-à-dire un dossier sur 3 au JAF. Hein. Ouais. Et là, on prend les enfants, on les met en foyer. S'ils sont en famille d'accueil, ça veut dire une famille, la maison est fermée le soir, les enfants ne se prostituent pas. S'ils sont en foyer, c'est-à-dire 95% des enfants, ils sont livrés tout simplement à des réseaux de pédophiles. Les réseaux de pédophilie récupèrent les enfants parce que tous ces foyers sont dans des quartiers chauds. À Marseille, c'est les quartiers nord. À Paris, c'est pas dans le centre-ville, dans le Marais qu'il y a les foyers. Hein. C'est dans les quartiers qui craignent, dans les quartiers pauvres. Les réseaux de stup ont trouvé que c'était plus simple en fait de gagner de l'argent avec les petites prostituées en fait qu'avec de les stup. C'est plus rentable, moins dangereux. Donc, ils transforment ces enfants, ils les attrapent avec la cocaïne. D'abord, ils leur donnent la cocaïne. Ensuite, ils leur vendent la cocaïne. Ensuite, ils leur font vendre la cocaïne. Et une fois qu'ils sont dans le trafic, ils ont des dettes, les enfants. Et pour les rembourser, la plupart du temps, ils vont les faire travailler. Mais il y a également la violence. Hein. Parfois, on va tuer ta mère, on va égorger ta sœur. Et l'enfant se retrouve à être prostitué. Nous, ça, on l'a découvert. Moi, ça fait 10 ans que je suis en cette matière. Jusqu'à il y a 2 ans, je disais, moi, des prostituées, je n'en ai pas. Là, depuis 2 ans, elles pleuvent. C'est la pluie de prostituées. Hein. C'est une pluie irrégulière, une pluie d'automne. C'est Satan qui conduit le bal à l'heure actuelle. L'aide sociale à l'enfance a perdu la garde des enfants au profit des réseaux de pédocriminalité. On l'a dénoncé de manière conjointe avec les magistrats, L'an dernier, nous sommes allés avec des magistrats du tribunal de Marseille, avec un magistrat du tribunal de Vienne, avec le président de la cour d'appel, de la chambre spéciale de la cour d'appel de Paris. On est allé à l'Assemblée nationale, on l'a dénoncé, on nous a reçus. Moi, je dénonce de manière extrêmement régulière dans la presse. J'ai fait l'intégralité de la presse télé, la 1, la 2, la 3, la 5, M6, on a eu des reportages de fond, la presse radio, on a eu France Inter, une enquête de fond sur 6 mois, on a eu le journal de 8h30 de France Inter, c'est-à-dire le pic d'audience d'Inter. On a eu Élise Lucet, on a travaillé 8 mois, on l'a dénoncé partout, et à partir du mois de juin, on a commencé à être reçu par des ministres, Rachida Dati, Aurore Berger, les directeurs de cabinet de Retailleau, du ministre de la Justice, du ministre de la Santé, du ministre des Femmes. Avec Retailleau, on travaillait plutôt bien. Et puis, à partir du mois de juin, juillet, on a dit, attention, tous ces enfants sont prostitués à partir d'un seul site. C'est un site marchand, ça s'appelle Sex, S-E-X Model, M-O-D-E-L. C'est sur Google, vous tapez ces deux mots et vous tombez sur un style d'escorte, c'est-à-dire des prostituées que vous pouvez louer à l'heure, à la demi-heure, à la nuit.
Comme sur Uber, finalement.
C'est un Uber du sexe. Ces enfants sont vendus. Alors, il y a des adultes, mais il y a des enfants. Quand vous savez décoder l'info, c'est-à-dire quand il n'y a qu'une partie du corps, un sein, un bout de sein, un bout de fesse, une bouche juste entrouverte, on sait que c'est le site pour avoir un enfant. Vous cliquez dessus, là il y a le poids, tout ce qui peut intéresser ces pervers, le poids, la taille, la dimension des nichons. Et ce qui est ignoble, il y a le prix, on peut payer par carte bleue, c'est Uber, hein, c'est exactement pareil que Uber. Et il y a le lien WhatsApp, Snapchat et le numéro de téléphone de celui qui vend l'enfant.
Donc c'est-à-dire des traces numériques.
Mais on a le numéro de téléphone du proxénète.
L'adresse IP.
Et ça, donc, nous avons demandé au ministre de la Justice en juillet, de le fermer. On a eu des réunions de travail avec un comité pluriministériel, intérieur, femmes, justice, santé. On a eu des réunions de travail en décembre, où le ministère de la Justice a reconnu qu'il avait trouvé de nombreuses petites filles qui se prostituaient. On a demandé la fermeture en juillet, mais on est déjà en juillet.
Et rien ne se passe ?
Mais c'est pas rien. C'est rien du tout. Ça aurait pu être rien. Là, c'est rien du tout.
Et comment vous l'expliquez,
alors, si vous me donnez une explication, madame, je monte à la bonne mère. Je dis merci de m'avoir donné l'explication. Ce qui se passe, c'est inacceptable. Le ministre de la Justice fait des effets d'annonce en disant... Alors, c'est le Uber du sexe. Hein. Alors, malheureusement, on est parasité par Epstein. Les gens ne voient que le dossier Epstein, ces petites filles qui sont livrées aux très riches. Mais c'est à quoi on a affaire est beaucoup plus grave, c'est le Uber du sexe, c'est-à-dire 20 000 enfants qui sont consommés par 300 ou 400 000 pédophiles en France, et tout le monde s'en fout. Un autre truc que je tiens à dire, moi je le fais sur votre radio parce que vous êtes solide et que vous êtes les premiers à avoir suivi. Le problème essentiel qu'on a en France, c'est pas tellement le Mac, le proxo, c'est les gens, les pédophiles. Et c'est là où ce que fait à l'heure actuelle le ministre de la Justice en ne faisant rien. Il n'y a pas de politique globale de lutte contre la pédophilie. Alors quand je le dis, je l'affirme. Pourquoi ? Quand on arrête des gens en train de consommer mes petites clientes. Alors par exemple, à Auxerre, on arrête 3 personnes, une qui est en train d'avoir une relation sexuelle avec ma fille, tarifée avec cette petite fille, tarifée, c'est-à-dire qu'il a payé pour avoir un rapport sexuel avec cet enfant. 2 qui attendent pour avoir des rapports sexuels avec l'enfant, plus la proxénète qui est une femme, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Tout le monde est arrêté. Tout le monde est libéré. C'est incompréhensible, hein, cette phrase. Quand je la prononce, ma propre bouche m'énerve. Les pédophiles n'ont eu qu'à dire « je n'avais pas conscience que c'était un enfant ». Les services de police n'ont même pas consulté la téléphonie de ces gens, le téléphone, s'il y a des photos cochonnes, rien, hein, rien. Et ces gens-là sont passés en CRPC, c'est-à-dire le plaidé coupable à la française, c'est-à-dire pareil que pour un vol de scooter, et ils ont pris 400 euros d'amende. Alors maintenant, moi, je vais vous dire un truc. À Marseille, il y a 2 semaines, il y a un homme qui a été arrêté parce qu'il avait des relations sexuelles avec une chèvre. Ce type-là a pris 30 mois de prison. Ouais. Et moi, je peux affirmer qu'en France, quand on a une relation payante avec un enfant, ça coûte 400 balles. Et le ministre de la Justice, il pourra donner les leçons à tout le monde. aller avec son sourire qu'il a certainement et qu'il affiche en permanence, dire j'ai fait bien, moi je l'affirme, il n'y a aucun travail.
Rien n'a été fait.
Il
n'y
a aucun travail. Pas rien n'a été fait. En France, on est trop friendly avec la pédophilie. C'est trop bien la pédophilie. Alors de temps en temps, quand ils en attrapent un, vous, les journalistes, vous jetez dessus, vous avez raison. Mais c'est une consommation de masse, c'est Uber. Si vous voulez, par exemple, prendre un Uber dans 2 minutes pour aller à l'autre bout de Paris, vous pouvez. Si vous voulez vous faire livrer une petite fille pour avoir une relation sexuelle dans la demi-heure, vous pouvez aussi, par Internet, sur Google. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et que le ministre ne réponde pas à aucun de nos courriers. Là, il m'a répondu, j'ai eu une réponse, en disant on fait bien le travail, mais à quel moment ils font bien le travail ? J'ai une maman, il y a une semaine, elle a découvert à l'audience que sa petite-fille se prostituait, 13 ans. À 13 ans, c'est à 13 ans, en quatrième. Elle a une MST. Donc elle a découvert, un, que sa fille placée depuis quelques mois se prostitue, deux, qu'elle a une MST, trois, qu'elle est toxicomane à la cocaïne. Et cette femme m'a dit à l'audience, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et ça, le ministre, ça n'intéresse pas trop. Vous ne l'avez pas entendu en parler quand il passe sur TF1 au journal de 20h, alors que je l'interpelle, moi, personnellement. Et que, alors, je suis peut-être arrogant, mais je pense que je compte.
Mais vous avez raison. Et il faut continuer. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le système de l'intérieur et pour bien comprendre qui décide qu'un enfant est placé, qui contrôle ce qui se passe une fois qu'il est dans un foyer et qui est responsable si quelque chose tourne mal.
Alors, le responsable, ce n'est pas le juge. Ce sont les services sociaux. Ce qu'il y a en France, c'est qu'on place, il y a 400 000 enfants qui relèvent du placement. 400 000, c'est énorme, madame. Hein,
c'est 400 énorme, 000. 400 000.
Hein, sur ces 400 000, il y en a 228 000 qui sont placés. C'est comme si toute la ville de Toulouse disparaissait dans la seconde. D'accord ? Moi, j'affirme, mais je ne fais que ça depuis 10 ans, que sur ces 227 000 enfants placés, il y en a 20% qu'il faut placer, c'est sûr. Ce sont les parents qui les violent, qui les frappent, les gens très impécunieux, ceux qui ne les alimentent pas, bon, les barjots. Oui. Voilà. Les barjots, il y en a 20%. Les dangereux, il y en a 20%. Tout le reste, c'est des placements abusifs.
Donc 80%.
Par exemple, qu'on enlève un enfant pour le père et la mère qui se disputent, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut leur coller une assistante sociale de les accompagner dans la rupture. Il ne faut pas extraire l'enfant du milieu familial. Jamais on doit faire ça. L'intégralité de la littérature, des psychologues le disent, il ne faut surtout pas faire ça. Mais nous, on place, parce que c'est rentable. Il faut dire les choses aussi très clairement. Les femmes battues, quand vous prenez une rouste, quand votre mari vous défonce à coups de poing devant les enfants qui vous crèvent, que vous partez avec votre enfant, ce qu'on a découvert, c'est que la femme battue, on lui prend les enfants. Dans 45% des cas, c'est inacceptable. Les enfants autistes, on les place quand les parents sont dépassés. Et je vais vous dire, j'ai même mieux à Aix, et je vais communiquer sur ce dossier, mais avec une hache et à la serpe. À Aix, il y a une petite fille qui a été violée pendant l'été dernier par son cousin pendant les vacances. C'est une maison familiale où tout le monde vient. Le cousin qui a 25 ans, il est venu, plus il a violé la petite. D'accord ? Et il a violé ses sœurs qui étaient plus grandes. On a appris plus tard qu'il avait violé toutes les autres sœurs de la famille. Donc, il y a une plainte pour viol contre le cousin. Vous ne le croirez jamais. Ils ont placé cet enfant en disant qu'il faut qu'elle se reconstruise loin de son père parce que sa mère est morte il y a 2 ans. Et comme son père est seul à l'élever, ils ont dit qu'il vaut mieux que la reconstruction de cet enfant se fasse loin. C'est-à-dire cette petite, elle n'a plus de mère, a été violée par son cousin et on vient de la placer dans une famille d'accueil, dans un foyer. Ça, il n'y a qu'en France que c'est possible. Et ça, c'est l'indignité de notre justice, c'est indigne.
Vous dites que la seule administration qui n'est pas contrôlée, c'est l'ASE. Et vous ajoutez aussi qu'on l'ASE. C'est un budget de 11,6 milliards d'euros par an.
11 milliards, oui. C'est-à-dire que les médecins ont un contrôle annuel. Ils sont notés. Les enseignants, tous les enseignants, ils ont le contrôle de l'académie tout le temps. Toutes les administrations sont contrôlées. La seule qui est totalement free, pas de contrôle a priori, a posteriori, c'est celle. Un truc qui est simple. Ils devraient vérifier chaque année le fichier FIJAS de tous ces gens pour savoir s'ils n'ont pas été condamnés pour un truc sexuel. Ils ne le font pas. De la même manière, ils ne sont pas contraints annuellement. sur les décisions qui sont à prendre. Et je vais vous dire même plus, au type de l'article 434 du Code pénal, si vous révélez pas, si vous avez connaissance d'une agression sexuelle sur un enfant, vous avez une obligation de le dire. Imaginez, vous passez à côté de chez moi, je suis en train d'avoir une relation sexuelle avec ma fille, vous avez l'obligation de me dénoncer. C'est la loi. Mm. C'est une, si vous ne le faites pas, on peut vous poursuivre, vous pouvez aller en prison. OK ? Mm. Cette loi, elle s'applique à tout le monde, sauf à ceux qui sont responsables des enfants, c'est-à-dire les services sociaux. C'est-à-dire que les gens qui ouvrent les 20 000 portes tous les soirs où ces petites vont se prostituer, il y a 20 000 enfants qui partent tous les soirs des foyers d'aide sociale à l'enfance pour avoir des rapports sexuels tarifés. Ce sont des viols. Hein. Mmh. C'est 20 000 types qui ouvrent la porte, qui laissent sortir les enfants. Je ne peux pas les poursuivre, moi, en correctionnel. À quel moment c'est possible ? À quel moment c'est possible que dans le pays des droits de l'homme, celui qui ouvre la porte pour qu'une petite fille de 11 ans aille avoir des rapports sexuels avec des gens moyennant argent, on ne puisse pas le poursuivre. Après, vous pouvez le mettre sous toutes les formes que vous voulez, et on pourra me le dire sous toutes les formes que l'on veut, la responsabilité, le manque d'argent, tout ça, c'est pas possible.
Et donc, vous avez lancé des procédures en responsabilité personnelle hein, contre le président des...
On s'en fout des procédures. Ouais. Ils sont tous responsables et à un moment, là, on reste poli avec les autres confrères, parce qu'il y a des confrères. Nous, on est des avocats. Mm. On a monté un projet avec des magistrats pour dire qu'il faut réformer ça. Et l'an dernier, quand on a lancé la procédure, avec les magistrats, on a dit bah, c'est fini, maintenant tout le monde le sait, on va avancer. Il ne s'est rien passé. C'est pas tellement d'aller faire condamner Martine Vassal, qui est responsable de toutes les petites prostituées à Marseille, puisque elle en est responsable juridiquement. C'est pas tellement de les faire condamner qu'il faut. C'est changer la loi. Il faut changer la loi et changer l'appréhension de cette matière. Il faut que tout le monde se mette à table et qu'on travaille ensemble. C'est ça qu'on attendait, c'est ça qui se passe pas. Et le ministre Darmanin, il y a un mois, il a dit oh, je vais tout changer, je fais un nouveau projet de loi, on va d'abord mettre les enfants chez les grands-parents. Et deux, on va créer une liste noire des agresseurs sexuels. Alors, un, la loi sur qui met chez les grands-parents, elle existe déjà, c'est dans le Code civil. Deux, la liste noire, elle existe déjà, c'est le fichier FIJAS, dans lequel sont inscrits tous les agresseurs sexuels condamnés, mais également tous ceux pour lesquels on a ouvert une procédure d'enquête, c'est-à-dire ceux qui ont eu un classement sans suite. C'est-à-dire que le ministre, lorsqu'il prend la parole, il ne connaît pas la loi dont il parle. On peut, par exemple, il en connaît un peu moins que les deux stagiaires qui sont face à moi, là, en ce moment, pendant le rendez-vous que j'ai avec vous. Mm. Quand on sait aussi peu de choses, on ne prend pas la parole en public. Quand on crée autant de dégâts, pour une raison qui est obscure, là, c'est obscur. Mm. Tout le monde sait qu'il y a 20 000 gamins qui vont se prostituer à partir des familles des foyers de l'ASE. Et il n'y a aucune réaction. Depuis l'an dernier, donc ça fait un an pile, on a dénoncé. Mais en un an, on a fait des centaines, moi j'en ai des centaines, d'enfants qui se prostituent. Et dans un des dossiers à Villeurbanne, où on défend une petite fille, celle qui a mis le pied à l'étrier de la prostitution qu'à 14 ans, elle est séropositive. Mais si elle n'avait pas été placée, elle n'aurait jamais eu de rapport sexuel tarifé. Elle n'aurait pas attrapé le HIV.
Alors, j'y vois là, et l'actualité vous donne malheureusement tristement raison avec l'affaire Liana. Je pense que vous avez également fait un lien hein, avec tout ce qui s'est passé. Vous avez notamment déclaré sur une radio, il y a au moins 4 ou 5 dossiers avant celui-là. Cet homme était inscrit, on parle de Barrel 1, sur ce fichier.
Alors, par exemple, pour Liana, c'est le sommet... On a lutté contre la pédophilie. D'accord, en France, c'est ça le combat qu'on a mené, hein, aussi haut que le narcotrafic. On arrête un type, il y a une plainte déposée contre un type parce que l'enfant dit « j'ai été violé ». Donc on a le nom du type, ce qui devrait être immédiat, c'est qu'on consulte le FIJAS. Bon, premier truc, il n'a pas de FIJAS. Le deuxième, 3 mois plus tard, il y a une autre jeune fille qui dit qu'elle a été violée par cet homme. Il aurait dû consulter immédiatement le FIJAS, dans lequel il y avait déjà la première inscription. La troisième, il y avait déjà 2 inscriptions. La quatrième, il y avait déjà 3 inscriptions sur ce fichier. C'est-à-dire, le type, sa fiche, elle est toute noire. Et à aucun moment, ils ne l'ont consulté. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, les policiers, je dis le contraire, moi.
Je dis qu'il n'y a aucune politique en France de lutte contre la pédophilie avec un process. Dès qu'on a une ouverture de plainte avec pédophilie, il faut consulter le figeage dans la seconde. Seulement, il n'y a pas de process parce qu'il n'y a pas le ministre de la Justice qui donne des leçons à tout le monde, n'a pas mis en place un process de lutte contre la pédophilie. Et pourquoi ? Parce qu'en France, ce n'est pas tellement grave la pédophilie.
C'est ce que vous disiez, que c'était un truc qui est friendly, c'est-à-dire pour nos auditeurs, qui est acceptable, avec lequel on s'arrange finalement.
En France, ce n'est pas bien grave d'avoir une relation avec un enfant. C'est dans les tribunaux. Quand vous voyez que quand vous avez une relation sexuelle avec un enfant, que vous payez pour l'avoir, vous prenez 400 euros d'amende.
Oui.
Alors que quand on a une relation sexuelle avec une chèvre, on prend 30 mois.
Alors vous dites...
C'est en vrai, cette actualité-là de la chèvre à Marseille, nous, en vrai, on a envie de vomir.
Oui, nous aussi.
On a envie de vomir. Depuis un an, sur tous les plateaux télé de France, dans tous les journaux, dans toutes les radios, on dit il y a le feu avec les prostituées. Personne ne réagit. Et quand on arrête un type en train d'avoir une relation sexuelle avec une chèvre, il prend 30 mois de prison. Mais j'ai honte.
Alors, au niveau des magistrats aussi, quelles sont vos relations avec les magistrats sur ces dossiers ?
La plupart d'entre eux sont d'accord avec nous. Et d'ailleurs, c'est avec eux qu'on a écrit les textes de loi qu'on a proposés. Mmh. Après, il y en a un ou deux avec qui on va s'opposer parce qu'on est dans un combat. Moi, c'est un combat. Je ne pensais pas un jour avoir à combattre. Moi, je suis pas loin de la retraite. J'ai 61 ans. Je ne la prendrai jamais. J'espère mourir sous ma robe dans un tribunal. Mais on a 61 ans. On ne peut pas avoir un combat. Là, on est dans un combat. On est dans un combat. Et donc, un combat, les coups, ils doivent porter. Donc, on a porté des coups qui ont laissé des blessures. Après, normalement, quand on porte des coups, nous, au pénal... Je fais 32 ans que je suis avocat. Je me suis battu avec plein de magistrats du parquet et avec plein de confrères. On se bat loyalement, on se met des coups, on porte des coups qui sont très violents. Mais par contre, à la fin de l'audience, on se serre la main et on dit « Waouh, on s'est régalé ». Les magistrats le disent aussi « On s'est régalé, on a mené un beau combat ». Dans cette matière qu'est l'enfance, le combat, il est malvenu, on n'a pas l'habitude. Donc ce sont des magistrats pour enfants qui n'ont pas l'habitude du combat que l'on mène. Donc, je ne leur en veux pas. Vraiment, je ne leur en veux pas, mais il y a certains avec qui c'est tendu. Ça l'est de moins en moins. La plupart, on travaille ensemble. La plupart, nous travaillons ensemble. D'ailleurs, le projet de loi que je porte, je les ai écrits avec eux. C'est avec eux que je m'en suis monté à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, là, il y a la matière se réunit une fois par an à Lyon, à l'Université de Lyon. Et celui qui l'organise, c'est Younes Bernan, qui est président du tribunal pour enfants de Vienne. C'est celui qui, avec moi, pose beaucoup d'articles de jurisprudence. Il y a une conférence, deux jours de travaux. Et bien évidemment, il m'a fait venir pour qu'une fois de plus, on travaille ensemble à l'université pour poser la doctrine que nous interpellons. Donc, on travaille ensemble.
Donc, le problème, il est politique.
Le problème est une absence totale de volonté politique d'agir. Voilà. Totale.
Dans les solutions, pour le temps qui nous reste, Michel Hamaz, vous proposez d'aligner par exemple la garde à vue des prédateurs sexuels sur le régime du terrorisme, 4 jours, des solutions, vos solutions.
Nous, les solutions, c'est pour les prostituées, c'est tout simple. Dès que l'enfant n'est pas là, il faut saisir le juge dans la minute, qu'on ait une audience tout de suite. Immédiatement, il faut une prise en charge de l'enfant, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Par exemple, les enfants n'ont aucun suivi de leur sexualité, 12, 13 rapports par jour à 10 ans. Je vous laisse voir les dégâts que ça peut faire, sans compter les MST. Prise en charge immédiate médicale, prise en charge immédiate psychologique pour les accompagner dans la souffrance, prise en charge immédiate de l'addiction à la cocaïne. Et immédiatement, on place chez les grands-parents, les oncles, les tantes, la famille élargie. Ça, c'est pour les petites prostituées. Pour la lutte contre la pédophilie, il faut une politique globale. Il faut cesser la plaisanterie de la CRPC, c'est-à-dire le plaidé coupable quand on se fait attraper en train d'avoir une relation sexuelle avec un enfant de 4 ans, de 12 ans. Il faut les renvoyer en correction. Il faut les renvoyer devant un juge d'instruction. Ça, il faut cesser, il faut arrêter de plaisanter. Et ensuite, si on veut des aveux, c'est quoi un procès pénal ? Procès pénal, c'est les 4 premiers jours, là où les gens vont parler. Comment ça se passe quand on est interpellé en train d'avoir une relation sexuelle avec un enfant, on va être en garde à vue. La garde à vue, en vrai, c'est moins de 24 heures. On est entendu 4 heures. Vous dites non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, non, bien sûr, non, j'ai jamais rien fait. L'après-midi arrive la déclaration de l'enfant. À la rigueur, on confronte le type aux déclarations de l'enfant. Là, il va dire non, 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 non. À la rigueur, on va le réentendre un peu la nuit, le soir, ou le lendemain matin, c'est fini. C'est-à-dire, en moins de 24 heures, ces gens-là, ils ne sont pas solides. Ceux qui violent les enfants, ce n'est pas des Corses. Un Corse, vous asseyez à côté de lui le lundi, il dit bonjour. Et le jeudi, quand on part, il dit au revoir. Ben, c'est pas ça.
Non.
C'est des sales mecs qui ont des relations avec des enfants, ils vont craquer. Donc là, la garde à vue, elle dure moins de 24 heures. Il suffit de dire non plusieurs fois, point, c'est fini. Si vous mettez 2 jours, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 jours? D'abord, vous commencez à puer le fenouil. Le troisième jour, vous sentez la mort, ça vous gratte de partout. Et vous dormez pas. Et le quatrième jour, c'est une infection à votre corps. Et vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas vu vos proches. Vous avez perdu les réalités. Les gens y parleront. Ce qui marche pour les terroristes, ça ne peut que marcher avec les sales mecs qui ont des relations sexuelles avec les enfants. Seulement pour ça, il faut un truc très important que le ministre de la Justice, M. Darmanin, n'a pas. Une volonté.
Un courage aussi, peut-être.
Oui. Voilà. Et là, pour l'instant, du courage et de la volonté, il n'y en a nulle part.
Bon, vous portez ces dossiers depuis des années, Maître Hamas, et vous communiquez dessus, des enfants morts, des enfants exploités, des institutions qui résistent. Qu'est-ce qui vous fait vous tenir?
J'aime ma femme et mes enfants.
Et la vie aussi, alors.
Oui, voilà.
Merci infiniment, en tout cas, du témoignage. Je sais que votre temps est précieux et que vous filez en audience. Merci infiniment, Maître Hamas, de nous avoir fait ce témoignage qui est glaçant, effroyable et insupportable, mais qu'il faut porter à la connaissance de tout le monde pour qu'enfin nos politiques aient un jour le courage d'agir et le plus vite possible serait le mieux. Merci à vous, Maître Hamas. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
D'entendre le libre journal de la liberté de penser dirigé par Clara Schneider. Émission préenregistrée le 24 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 1er juillet, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.